Vous êtes sur RTL.
7h30.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Yann Bouchery pour le Tout Info de RTL. Bonjour Yann.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 3 mars.
Et à la une, les accusations de Marc Frattani à l'encontre de Bernard Tapie. L'ancien collaborateur de l'homme d'affaires règle ses comptes dans un entretien au Monde. Il raconte les pratiques souvent inavouables du président de l'OM devenu homme politique. Marc Frattani dévoile par exemple qu'en 1993, il avait assisté à la rencontre entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen durant l'entre-deux-tours des législatives. Un maintien du candidat FN empêchait le report de voix sur le candidat RPR et augmentait les chances du candidat Tapie. Rencontre confirmée par l'ancien président du Front National en personne.
On m'a annoncé que M. Tapie était à l'entrée, demandait à me voir. Je dois dire d'ailleurs que ça m'avait stupéfié. Il aurait pu faire ça par personne interposée. Mais pas du tout. Il est venu en personne. J'ai accepté de le recevoir, bien sûr. Et il est monté au premier étage à mon bureau. Et là, il m'a dit, voilà, je voudrais vous demander de maintenir votre candidat au deuxième tour de l'élection législative où je suis moi-même candidat. Je lui ai dit, monsieur Tapie, vous vous êtes dérangé pour rien, puisque le bureau politique du Front National a décidé de maintenir nos candidats dans toutes les circonscriptions possibles. Alors là, il s'est retiré, il est parti. Et depuis, il a nié cyniquement être venu à mon tour et m'avoir rencontré. Mais ça, c'est un menteur, mais il n'est pas que cela.
Jean-Marie Le Pen joint pour RTL par Mélina Fachin. Dans son entretien au Monde, Marc Frattani dénonce aussi des pratiques frauduleuses de Bernard Tapie à la tête de l'OM à la fin des années 80, début 90. Il explique avoir participé une fois à un achat d'arbitre et comment l'Olympique de Marseille déstabilisait parfois ses adversaires en introduisant un anesthésiant dans des bouteilles d'eau grâce à des seringues très fines. Contacté par Christian Olivier pour RTL, Bernard Tapie déclare concernant l'histoire des seringues, je cite, « On est chez les fous, il dément, il entend aussi saisir les tribunaux pour connaître le nom de l'arbitre soi-disant acheté. »
Yann, l'image de ce samedi restera peut-être celle de la réplique de la statue de la liberté de Colmar, à laquelle les gilets jaunes ont enfilé une veste fluo géante.
Oui, une action d'éclat pour une mobilisation en repli hier avec 39 300 manifestants au niveau national, dont 4 000 à Paris, où un homme a été touché probablement par un tir de LBD en marge du cortège. La police des polices a été saisie. À Marseille, ils étaient un millier de manifestants à battre le pavé, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, donne rendez-vous le 16 mars, qui coïncidera avec la fin du grand débat national lancé par Emmanuel Macron.
Je sais que chaque semaine, il y a moins de monde que la précédente, et la première semaine, il y en avait moins que prévu. Donc une fois que nous avons posé cette bêtise de côté, on remarque qu'il se produit un fait qui me paraît très important. 15-16 semaines d'insurrection dans un pays avancé, c'est un fait absolument et radicalement nouveau. Donc le 16 mars sera un très gros événement, n'en doutez pas.
Jean-Luc Mélenchon au micro RTL d'Hugo Hamelin. Des heurts ont eu lieu hier, notamment en région. Une quinzaine de personnes ont été interpellées à Nantes, à Toulouse et Bordeaux, où le député La France Insoumise, justement Loïc Prud'homme, a affirmé avoir été matraqué par la police alors qu'il quittait la manifestation. Le préfet de Gironde évoque, lui, une dispersion d'un rassemblement non autorisé. On a par ailleurs appris hier qu'une information judiciaire a été ouverte à Marseille après la mort en décembre dernier d'une octogénaire. La vieille dame avait été touchée chez elle par un tir de grenade lacrymogène en marge de manifestation.
Une question à présent, les Français se disent-ils féministes? Eh bien la réponse est oui, mais à une petite majorité.
Effectivement, selon un sondage BVA Opinion, à l'initiative notamment du site RTL Girls et Wonder, les femmes sont les plus nombreuses, 59% contre 49% chez les hommes. Selon Christelle Craplet, la directrice de clientèle chez BVA Opinion, ce résultat s'explique peut-être parce que le mot féminisme fait encore peur, même parfois aux femmes.
On a l'impression aujourd'hui que les Français ont encore un peu de mal à se revendiquer comme féministes. Ils sont une toute petite majorité à se dire féministes, 54%, ce qui signifie que la moitié d'entre eux soit s'affichent ouvertement comme non féministes, soit ne se prononcent pas sur le sujet. Compte tenu du contexte, de l'émergence d'un certain nombre de mouvements comme MeToo, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait plus de gens qui se disent féministes, mais c'est peut-être ce mot féminisme qui est connoté finalement pas forcément de manière très positive dans l'esprit des gens.
Christelle Caplet, directrice de clientèle chez BVA Opinion, jointe pour RTL par Nicolas Burnand. Selon une autre étude que Fidis que RTL vous dévoile ce matin, le revenu moyen des femmes est inférieur de 36% à celui des hommes.
36%, la porte-parole de Cofidis, Céline François, nous donnera tout à l'heure son éclairage à 8h15. Et puis sur tous ces dossiers, on attend évidemment la réaction de Marlène Schiappa, la ministre de l'Égalité, femme-homme, invitée du grand jury. RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche, le rendez-vous tout à l'heure à midi.
C'est ce soir à 23h59 que se termine la consultation citoyenne sur le changement d'heure. Au dernier pointage, 80% des participants sont pour la fin de ce système et une légère majorité choisirait de rester à l'heure d'été, à savoir des longues soirées estivales et l'hiver, un soleil qui se lève plus tard. La consultation n'a aucune valeur contraignante. La modification devrait être effective seulement en 2021 et d'ici là, les institutions européennes appellent les États à se mettre d'accord. Harmonisation indispensable selon la députée européenne Karima Delli.
Le Parlement européen réclame absolument une coordination des États membres qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas avoir un patchwork sur la question du changement d'heure. Donc il va falloir surtout regarder nos voisins. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, un habitant français qui travaille en Allemagne, il ne va pas changer sa montre le matin et le soir. Ce n'est pas possible. C'est primordial parce que derrière une harmonisation, il y a vraiment des questions de la vie quotidienne des citoyens, mais aussi des secteurs qu'il faut harmoniser. Je pense notamment au secteur de l'aviation.
La députée européenne Karima Delli, jointe pour RTL par Sophie Jousselin. L'actualité à l'étranger, en Algérie, Abdelaziz Bouteflika a limogé hier son directeur de campagne. Une éviction au lendemain des manifestations massives pour dire non à un cinquième mandat du président. Ce dernier, encore à Genève hier pour raisons médicales, a jusqu'à ce soir pour déposer son dossier de candidature.
Alors sur cette Algérie, au présent et au futur, on écoutera évidemment tout à l'heure Benjamin Stora, notre invité à 8h50, lui qui est né à Constantine en Algérie et qui est historien. Il enseigne notamment l'histoire du Maghreb contemporain à l'université de Paris 13.
On passe au sport et comme souvent, Kylian Mbappé dans le rôle du sauveur. Grâce à son doublé, le PSG l'a emporté à Caen 2-1 hier alors qu'il était mené 1-0. Rassurant avant la réception de Manchester mercredi en Ligue des Champions. Manchester victorieux d'ailleurs hier de Southampton 3-2. Les autres résultats de Ligue 1, 2-2 entre Angers et Monaco, 2-2 également entre Reims et Amiens. 5 matchs au programme aujourd'hui, dont Marseille-Saint-Etienne à 21h. Match à vivre sur RTL dans Soir de Ligue 1. En Ligue 2, Orléans l'a emporté à Lorient 3-1 hier. Et puis en Espagne, Barcelone s'est imposé à Madrid 1-0 contre le Real, grâce à un but de Rakitic, Barcelone s'envole vers le titre de champion. Le top 14 de rugby a noté le carton du Racing 92 sur La Rochelle, 50-14. Le club francilien qui ne recrutera pas Dan Carter, Jean-Michel Rascol.
Les experts médicaux s'appuient sur les radios du rachis cervical de Dan Carter qui font apparaître des faiblesses qui représentent un danger. Les traumatismes sont classés en 3 catégories, de la pathologie dite simple, appelée G1, à la contre-indication absolue G3. Il faut croire que l'état du double champion du monde est sérieux, en tout cas qu'il s'est détérioré depuis ses matchs disputés avec Kobe dans le championnat japonais. Notez que la Ligue nationale impose cette étude avant de délivrer une licence, ce qui n'est pas le cas du rugby professionnel anglais. Dan Carter, qui fêtera mardi son 37e anniversaire, va sans doute mettre un terme à sa carrière et se consacrer pleinement à la promotion de la Coupe du Monde au Japon, en costume cravate.
Et à suivre aujourd'hui, Perpignan-Toulon à 12h30 et Stade Français-Toulouse à 16h50. Enfin, en tennis, un grand coup de chapeau à Roger Federer en remportant le tournoi de Dubaï. Hier, le Suisse a décroché le 100e tournoi de sa carrière, 18 ans après le premier. Il est le deuxième à atteindre la barre des 100. Jimmy Connors reste en tête avec 109 tournois à son actif.
Impressionnant. Merci Yann Boucherie. Toute info RTL, toute l'actualité. Quand vous le souhaitez, vous allez cliquer sur notre site rtl.fr. Si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-mères, n'hésitez pas à lui souhaiter une bonne fête aujourd'hui. C'est la fête des mamies, figurez-vous. On a les bisous de Kiki, qui est une mamie, le coucou de Rosa, qui est une mamie heureuse. Audrey souhaite une bonne fête à sa mamie et à toutes les grand-mères de notre beau pays. Vos messages, la page Facebook, RTL Matin Week-end, les réseaux sociaux à disposition, le compte Twitter également, et puis les SMS 64 900. Code Matin, les livres prennent la parole, juste après ceci. À tout de suite.